Radio G. 101.5 FM.
Quand certains laissent leur nom dans l'histoire pour leurs actes et leur vie, d'autres laissent le leur pour cette vie qu'on leur a ôtée. Comme ces sept noms inscrits au beau milieu d'une clairière à Belbeil, juste à côté de l'étang Saint-Nicolas. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre Benoît et pendant 15 minutes nous allons faire ensemble un zoom sur un élément de l'histoire de notre belle province angevine avec cette chronique de Clic-Clac-Topette. Nous allons parler de la résistance en Anjou pendant la Seconde Guerre mondiale et de la courte histoire de jeunes gens dont l'élan de la vie aura été coupé par ces terribles circonstances. Cette chronique devait initialement être diffusée il y a déjà quelques semaines sous l'ancien format de Clic-Clac-Topette avec la voix de Clic-Clac et le récit de ses aventures. Mais en plus de certains problèmes techniques, je n'ai même pas pu terminer l'enregistrement avec toutes les voix avant le début du confinement. Donc, difficile d'achever l'œuvre en bonne et due forme. J'en profite pour remercier chaleureusement les voix qui avaient fait un travail extraordinaire et je m'excuse vivement de ne pas avoir pu aboutir à ce montage. D'ailleurs, sur le compte Facebook ou Instagram, je reçois presque quotidiennement des messages d'encouragement, de remerciements, de félicitations. Bref, beaucoup de choses positives qui donnent de la force pour améliorer et poursuivre cette aventure de découverte et d'exploration de l'histoire angevine. Je tiens à vous dire merci, vous qui avez fait de Clic-Clac-Topette le podcast le plus écouté sur Radio G. La chronique se propose comme une exploration et une découverte de l'histoire en Maine-et-Loire, afin d'éveiller les curiosités. Donc, si des imprécisions subsistent, faites-moi part en écrivant à clicclactopette@gmail.com. Je répète, clicclactopette@gmail.com. Bref, si l'on revenait à notre sujet, la résistance en Anjou pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde connaît l'histoire de Louis Bordier et du pont de Prunier. Ceux qui ne connaissent pas, je les invite à en découvrir un peu plus en écoutant la chronique de Clic-Clac-Topette sur ce sujet en cliquant dans le lien sur la description du podcast. Bref, cet événement s'inscrit dans l'émulsion patriotique impulsée par le débarquement des Alliés en Normandie en juin 1944. Pourtant, encore quelques mois, voire quelques semaines plus tôt, la situation était bien différente et les actions avait beaucoup moins d'ampleur, quoique très importante. Le moindre petit faux papier édité, la ligne de téléphone sabotée, le fusil dissimulé se facturait avec de lourdes pertes humaines. La liste des fusillés est longue, très longue. Il y a un monument à Belbeil qui commémore le lieu d'exécution des résistants. Et je voudrais m'arrêter sur la journée du 13 décembre 1943. Adrien Tigeau, Alfred Clément, André Moine, Pierre Porcher, Julien Alix, Gabriel Alix et Maxime Baquet. Sept noms dont la vie s'est subitement arrêtée ce 13 décembre 1943 dans une clairière de l'étang Saint-Nicolas. Qui étaient-ils ? Et pourquoi ont-ils été exécutés ? Voilà ce que je vous propose de découvrir ! Pour réaliser cette chronique, je me suis principalement appuyé sur les articles et les fiches renseignements d'un superbe site internet qui s'appelle Le Métron, et qui référence tous les fusillés les condamnés à mort pendant la Seconde Guerre. En étudiant la fiche de chaque profil, j'ai pu reconstruire le fil de leur histoire commune qui les a tristement conduits à ce funeste jour. Pour tous ceux que ça intéresse de poursuivre la découverte et l'exploration de l'histoire en Anjou, je vous propose de rejoindre juste après cette écoute, les comptes Instagram, Facebook et YouTube de Clic-Clac-Topette en tapant Clic-Clac-Topette sur le réseau concerné. Bonne écoute! Angers, le 13 décembre 1943. Parents chéris, grandes sœurs, grands frères, petits frères, Jean-Pierre et Josiane adorés. Mon cœur se serre à l'idée de vous dire adieu pour toujours. J'ai espéré longtemps, jusqu'à la dernière minute, mais maintenant c'est fini. Consolez-vous en pensant que je meurs pour une cause que je crois juste. Mon sacrifice n'est pas inutile. Continuez à vivre, tous ensemble, sans désaccord, bien unis. Ma chère maman, mon cher papa, pensez à vos chers petits qui vous restent. Reportez l'affection que vous me portiez sur eux. Mes chers Marc et Joseph, rendez Germaine et Louisette heureuse. Comme j'aurais voulu rendre heureuse Manuela chérie. Profitez de ce malheur pour mieux vous comprendre, mieux vous aimer. Donnez la lettre à Manuela seulement quand elle sortira de prison. Recevez-la comme si elle était ma petite femme adorée. Mais laissez-la vivre, m'oublier, aimer. Adieu, mes êtres chéris. Adieu, peut-être bientôt. Didi. Voilà les derniers mots qu'Adrien Tigeau adresse à ses proches, à sa femme qu'il ne pourra plus aimer. Le matin du 13 décembre 1943, il est conduit dans un bois à Belbeil et ligoté à un poteau. En jetant un œil sur les autres condamnés, il découvre avec effroi et résignation d'autres camarades avec lesquels il a pu organiser des actions de résistance. Adrien n'avait que 20 ans et il est exécuté avec 6 autres personnes, dont Alfred Clément, André Moine et Pierre Porcher, tout juste âgés de 19 ans chacun. Que pouvaient-ils avoir à se reprocher pour se faire ainsi voler leur jeunesse, leur vie? Il faut recontextualiser. C'est la guerre. La France est sous le joug de l'Allemagne nazie et le semblant d'autorité française dépend du régime de Vichy et de Pétain. Comme souvent, dans les situations extraordinaires, des actes courageux émergent dans le sens de l'intérêt collectif. Mais là aussi, il faut contextualiser. Parce que contrairement à ce que l'on pense, la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale est loin d'être une sinécure. La Gestapo surveille les réseaux, la Feldgendarmerie patrouille et la Wehrmacht réprime. La plupart des Français ont tout bonnement peur et préfèrent jouer profil bas en attendant des jours meilleurs. D'autant que beaucoup conservent encore les séquelles de la Première Guerre et savent de quoi il s'agit. Ce sont donc des jeunes gens issus d'une nouvelle génération n'ayant pas connu la guerre de 14 et souvent empreints d'idéalisme communiste qui vont mener un inconscient et brave combat contre une force qui les dépasse. Et de loin, pourquoi communiste ? Par opposition à l'extrême droite que représente le nazisme. C'est dans les milieux ouvriers ou intellectuels que l'on trouve le plus de communistes. Quel est le rapport avec Alfred Clément, Pierre Porcher, André Moine et Adrien Tigeau ? Ils sont tous normaliens, c'est-à-dire futurs ou jeunes instituteurs d'école suivant les cours de l'école normale. Adrien a déjà commencé à enseigner et les trois autres font partie de la promo Cyrano des lycées David d'Angers et Chevrolier, qui s'est regroupée pendant une heure de permanence en octobre 1942 pour rejoindre les mouvements de résistance locale. Voilà une décision qui va sceller leur destin. En effet, même pas 8 mois plus tard, Adrien Tigeau est cueilli dans sa classe qu'il donne à l'école de Corzé et Alfred, Pierre et André sont arrêtés dans le réfectoire de leur internat le 17 juin 1943 à l'emplacement de l'actuelle caserne des pompiers Place de l'Académie. Qu'ont-ils précisément fait pour se faire capturer ? Adrien ne sait rien de l'arrestation de ses camarades. Il n'a pas participé à leur dernière action. Lui, son principal crime est d'avoir dérobé du matériel, comme des machines à écrire ou des tampons dans les mairies, pour fabriquer de faux documents et permettre à des résistants clandestins de circuler. En l'occurrence, il ne sait même pas comment il a été démasqué. Peut-être a-t-il été dénoncé. En tout cas, rien ne permet de l'affirmer. Alfred Clément, Pierre Porcher, André Moine ont organisé, eux, l'attaque de la mairie de Verne-d'Anjou avec Julien et Gabriel Alix, dont l'un est le père de l'autre, et qui sont tous deux cultivateurs à la Membrolle et à Pruyé. Voilà ce qu'il s'est passé. Il est aux alentours de 3 heures cette nuit du 16 au 17 juin 1943. La campagne angevine est calme, silencieuse. Le ciel est dégagé, mais l'absence de lune permet la discrétion le long des haies. Le groupe de 6 progresse sans un bruit, à vélo, vers le bourg du village. Ils descendent tous de bicyclette et continuent à pied en direction de la mairie. Tout le monde dort à cette heure. Mais plus que les habitants, ce sont les Feldgendarmes en patrouille qu'ils redoutent. Ils se divisent en deux groupes, l'un s'introduit dans la mairie et l'autre fait le guet. L'action ne prend que quelques minutes. Des chiens aboient au loin, il ne faut pas traîner. Le groupe reprend la route de la Membrolle. Il se félicite de cette nouvelle action réussie. Pierre range son arme dans le veston. Mais soudain, arrivé à la hauteur du lieu-dit de la Maisonneuve, au nord de Brun-sur-Longnay, trois fêles gendarmes en patrouille leur crient de s'arrêter et de les suivre. André regarde Pierre et lui fait signe avec la tête de se préparer. Le groupe commence à suivre les policiers allemands, mais André Moine sort son pistolet et ouvre le feu. Pan ! Pan ! Il en blesse deux, mais le troisième s'échappe pour alerter la brigade. Les résistants font pareil. L'un d'entre eux s'enfonce dans le bocage au travers des haies. Alix, père et fils sont déjà en train de courir. Et les trois normaliens, eux, remontent sur leur bicyclette pour pédaler vers Angers. Le récit pourrait très bien s'arrêter ici. Personne n'a été reconnu par la patrouille. Mais puisqu'ils vont se faire arrêter dès le lendemain, qu'est-ce qui les a trahis ? On l'a dit, le 17 juin, en toute fin d'après-midi, Pierre, Alfred et André sont embarqués par la police allemande alors qu'ils sont au réfectoire de leur internat. Les enquêteurs ont aucun doute sur leur prise, puisqu'ils disposent de preuves formelles qui attestent sans conteste que les trois ont passé la nuit à cambrioler la mairie de Verne d'Anjou. Comment ont-ils pu disposer de tant de preuves ? Rappelez-vous, après avoir rencontré la patrouille de Fels gendarmes, les résistants se sont divisés en trois groupes et ont détalé. Sauf que dans la précipitation, Pierre a guidonné et a chuté. Plutôt que de récupérer son vélo, il a grimpé sur le porte-bagages d'un de ses deux camarades pour éviter de se faire attraper. Or, dans les bagages de son vélo, celui-ci particulièrement, il y avait non seulement tous les objets et le matériel que les jeunes résistants avaient dérobés, mais aussi une liste nominative de tous les membres du réseau du lycée, Chevrolet et David. La fameuse promo Cyrano. Pourquoi avoir emmené un tel document pendant une telle opération ? Eh bien évidemment, Pierre ignorait que cette liste était avec lui sur le vélo. Puisque le vélo, ce n'était pas le sien, mais celui d'un camarade qu'il avait emprunté l'après-midi avant de se rendre à Verne d'Anjou. S'il avait pris soin de vérifier son contenu, ils ne se seraient pas tous fait arrêter 24 heures plus tard. Cela traduit le manque d'expérience et le jeune âge de ces résistants, presque sans chef de guerre véritable. Ils n'avaient que 19 ans. Bref, il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé. Le sixième membre, Maxime Baquet. Pour être tout à fait honnête, il me manque ici de précieuses informations que je n'ai pas pu retrouver sur aucun site, ni aucun livre que ce soit. Et si quelqu'un connaît cette histoire, je veux bien qu'il écrive à clicclactopette@gmail.com pour m'expliquer tout ça. Maxime Baquet est un jeune homme du Nord, rentré en clandestinité et qui a fini par se retrouver en Anjou. Mais il est difficile de savoir si oui ou non il a participé à l'attaque de Verne, car sa trace disparaît jusqu'au moment de sa capture. Et un autre nom apparaît, celui de Roger Pelluot. Mais là, il n'y a aucune information sur cet homme nulle part. Alors, est-ce que Roger Pelluot est Maxime Baquet ? Le mystère reste entier. Adrien Tigeot, 20 ans. Alfred Clément, 19 ans. Pierre Porcher, 19 ans. André Moine, 19 ans. Julien Alix, 51 ans. Gabriel Alix, 20 ans. Maxime Baquet, 23 ans. Voilà, ce sera tout pour cette chronique de Clic-Clac-Topette et la résistance en Anjou pendant la Seconde Guerre mondiale. Un sujet évidemment beaucoup plus riche et fourni, avec plein d'histoires passionnantes, des noms et des vies qui auraient tout le mérite de faire l'objet d'une chronique. Envoyez-moi un message à clicclactopette@gmail.com ou sur le messenger de la page Facebook ou sur Instagram. Bref, partout où vous pouvez me contacter pour me faire part de vos impressions et surtout, j'aimerais avoir vos idées de sujets, des choses qui vous passionnent, des anecdotes historiques dont vous aimeriez bien que Clic-Clac parle. On se retrouve lundi dans deux semaines pour une nouvelle chronique de l'histoire angevine sur le 101.5. Topette!
Radio G.